VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, l'opposant Sébastien Ajavon ne sera pas présent à son procès pour trafic de cocaïne aujourd'hui.
Menace de saisine des instances internationales par Kinshasa suite à l'expulsion de centaines de milliers de Congolais d'Angola.
Aux Comores, la situation était toujours tendue hier après des affrontements meurtriers entre l'armée et des opposants.
Affaire Khashoggi, le président américain Donald Trump nie chercher à couvrir ses alliés saoudiens.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Bénin, l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Ajavon ne se rendra pas aujourd'hui à son procès, a annoncé l'un de ses avocats qui dénonce de graves irrégularités dans la procédure. Monsieur Ajavon est mis en cause dans une affaire de trafic de cocaïne. Le point avec Nani Talani.
Sébastien Ajavon a décidé de ne pas comparaître en personne lors de cette audience, compte tenu des graves irrégularités et du caractère absurde et mensonger de l'accusation portée contre lui, a déclaré l'un de ses avocats, Maître Éric Dupont-Moretti. Il donne en revanche mandat à ses avocats pour dénoncer les atteintes à ses droits et les manquements au procès équitable entachant l'entière procédure. Selon lui, M. Ajavon entreprendra toute action de nature tant judiciaire que politique nécessaire à faire garantir le respect de ses droits et sa participation au processus démocratique. Candidat à la présidentielle de 2016, il était arrivé troisième avec 23% des voix et avait soutenu un autre homme d'affaires, Patrice Talon, au second tour face à Lionel Zinsou. Sébastien Ajavon, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, avait été arrêté en octobre 2016 après découverte d'environ 18 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Il avait été relaxé quelques mois plus tard, faute de preuves et au bénéfice du doute. L'homme d'affaires avait de nouveau été convoqué le 4 octobre devant un tribunal spécial créé à la fin du mois d'août.
Kinshasa menace de saisir les instances internationales au sujet de violences présumées pendant les expulsions de quelques 200 000 Congolais d'Angola, et ce, si Luanda ne lance pas rapidement des enquêtes approfondies. Eddie Isango.
Kinshasa invite instamment le gouvernement de la République d'Angola à se ressaisir et à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités de ces actes condamnables, a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Cheokitundu. À défaut, le gouvernement de la RDC s'est viré dans l'obligation de saisir les instances compétentes, a-t-il menacé. M. Cheokitundu a cependant averti que son gouvernement ne tombera pas dans le piège d'expulser brutalement les Angolais qui vivent sur son sol. L'ambassadeur d'Angola a été convoqué hier, mais il est absent de Kinshasa. Le gouvernement congolais a transmis ses vives protestations à Luanda. Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés d'Angola dans le cadre d'une opération contre l'immigration clandestine. Luanda parle des retours volontaires.
Et puis nous reviendrons sur cette affaire entre Luanda et Kinshasa en seconde partie de cette édition.
En Ouganda, l'ex-chanteur et député Bobby Wine a accusé hier la police de l'avoir empêché de donner un concert. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Prévu le week-end prochain, le concert était très attendu par les fans de Bobby Wine. Après avoir payé un acompte pour réserver le stade, la société de gestion a subitement indiqué que le stade n'était plus disponible. Selon le chanteur, la police a fait pression sur les organisateurs pour bloquer le concert de samedi. Ce retour sur scène de Bobby Wine avait pour but de promouvoir son album Kyaranga, devenu très populaire depuis l'arrestation du chanteur en août dernier. Ce dernier affirme avoir alors été battu et torturé par la police. Bobby Wine, opposant au président Yoweri Museveni, est devenu à 36 ans le porte-parole d'une jeunesse ougandaise urbaine, très pauvre, qui ne se reconnaît pas dans le régime du président Museveni, au pouvoir depuis 1986.
Tirs, patrouilles et barricades, situation toujours tendue hier aux Comores, après des affrontements meurtriers entre l'armée et des opposants. Selon les autorités, le bilan est de 3 morts. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Pour la troisième journée consécutive, les forces de sécurité ont patrouillé à Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan. Hier, des tirs ont été à nouveau entendus. Des barricades tour à tour érigées par des opposants ont été démantelées par les forces de l'ordre. Les affrontements ont éclaté lundi lorsque des protestataires ont érigé des barrages dans plusieurs rues et autour de Mutsamudu, considérés comme un fief de l'opposition. Ils ont été démantelés par les forces de l'ordre. Mardi, les affrontements ont fait 3 morts, selon le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Le couvre-feu nocturne est toujours en vigueur sur l'île d'Anjouan. Les autorités accusent le parti Djoua de l'ancien président Abdallah Sambi d'être à l'origine des troubles. Les partis d'opposition réunis en coalition renvoient la responsabilité sur le gouvernement. Les Nations Unies et l'Union africaine ont appelé au calme et à la reprise du dialogue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a nié mercredi chercher à couvrir ses alliés saoudiens dans l'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste qui aurait été assassiné à Istanbul par des tueurs envoyés par Riyad en Turquie. Le point avec Jean-Roger Bion.
Je ne couvre pas du tout les Saoudiens, a assuré le président des États-Unis à des journalistes à la Maison-Blanche, expliquant s'attendre à ce que la vérité éclate d'ici à la fin de la semaine, alors que sont publiés dans la presse des détails effroyables sur le possible assassinat. Washington continue malgré tout de ménager Riyad qui nie toute implication. Mercredi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit vouloir laisser quelques jours aux deux pays pour boucler leur enquête à l'issue d'une rencontre à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Un prochain indice de la position américaine devrait venir de la décision du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui a promis de décider jeudi sur la base du rapport du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de retour d'Arabie Saoudite. S'il se rend ou non au Davos du désert, une conférence économique organisée à Riyad et boycottée par un nombre croissant de personnalités. Sous une pression croissante, les autorités saoudiennes continuent de nier avoir connaissance du sort de Jamal Khashoggi, qui s'est installé aux États-Unis en 2017 après être tombé en disgrâce à la cour. Mais de nouveaux indices accréditent la thèse d'un assassinat du journaliste au consulat saoudien d'Istanbul, où sa trace est officiellement perdue le 2 octobre.
Les parlementaires américains ont pour leur part continué à critiquer l'Arabie saoudite. Par exemple, l'un d'entre eux, le sénateur républicain John Kennedy de la Louisiane, a déclaré « Je crois que M. Khashoggi est mort. Je ne crois pas qu'il ait été kidnappé par des extraterrestres. Je crois que les Saoudiens l'ont tué. » Mardi, son collègue républicain Lindsey Graham avait suggéré des sanctions très sévères et promis de ne plus travailler avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman.
Ici aux États-Unis, un homme de 26 ans a reconnu coupable d'avoir mis le feu à une mosquée au Texas en janvier 2017, a été condamné hier à plus de 24 ans de prison. Mark Perez avait été reconnu coupable par un jury en juillet dernier de crimes aggravés par une motivation à caractère raciste pour avoir incendié le Victoria Islamic Center, une mosquée située à Victoria au sud du Texas. Selon le ministère américain de la Justice, cette condamnation démontre que les crimes de haine raciale ne seront pas tolérés.
En Crimée, un élève de 18 ans a tué hier par balle 19 personnes et blessé plus de 50 autres dans le lycée technique de Kerch où il étudiait. Selon la police, l'auteur de cette fusillade, un certain Vladislav Rosliakov, s'est apparemment suicidé. La plupart des victimes seraient des lycéens. Un comité d'enquête a conclu, je cite, que ce n'est pas un acte terroriste, c'était une tuerie de masse causée par un seul individu.
Enfin, ici aux États-Unis, le prochain tirage de la loterie américaine Mega Millions mettra en jeu demain un jackpot de 900 millions de dollars, c'est-à-dire près de 500 milliards de francs CFA. En cas de gagnant unique, cela va représenter le plus gros gain jamais vu dans le monde pour une loterie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le jackpot est passé de 667 à 868 millions de dollars, puis à 900 millions hier pour cette loterie qui réunit 44 États américains, la capitale fédérale Washington et les îles Vierges. Le tirage de mardi n'a pas fait de gagnant. Si le tirage de demain vendredi fait un ou plusieurs gagnants, ils ont le choix de recevoir le jackpot en 30 versements sur 30 ans ou toucher immédiatement une somme réduite. C'est 900 millions de dollars ou près de 500 milliards de francs CFA sur 30 ans ou plus de 500 millions de dollars si vous choisissez de tout recevoir d'un seul coup. La probabilité est mince car c'est une seule chance sur 302 millions. Si vous gagnez, il faut quand même savoir que les gains tirés de la loterie américaine sont imposables et de nombreux États appliquent une fiscalité supplémentaire. À ce jour, le record est détenu par Mavis Wanzik, une mère de famille de 53 ans qui avait décroché en août 2017 le jackpot de Powerball qui s'élevait à quelque 758 millions de dollars. Comme il n'est pas interdit de rêver, alors faites vos jeux.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Avec 18 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire a enregistré une hausse régulière des productions vivrières avec un taux moyen de croissance annuelle de 11,5%, faisant passer la production globale de 12 millions de tonnes en 2011 à 18 millions de tonnes en 2017, soit une augmentation de 51%. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a déclaré que la sécurité alimentaire s'est améliorée et le taux de pauvreté en milieu rural a enregistré une forte baisse. Le Burkina Faso a déboursé en 2018 une enveloppe de 81 milliards de francs CFA pour aider les personnes en proie à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Jacob Ouédraogo, ministre de l'Agriculture, a indiqué que 25 milliards ont été dépensés dans la fourniture de céréales aux populations. Le Burkina Faso a réalisé en 2017-2018 une récolte céréalière de 4 millions de tonnes, soit une baisse de 11% par rapport à la campagne précédente. Ce mauvais résultat a creusé un déficit d'environ 477 000 tonnes. En 2018, la récolte mondiale de riz devrait se cumuler à 773 millions de tonnes, soit 1,3% de plus que 2017, selon l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz. En Afrique, une tendance globale à la hausse des récoltes avec plus de 4% devrait être observée, notamment à Madagascar et en Tanzanie.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Thierry Henry de retour à Monaco.
La conférence de presse d'intronisation a eu lieu ce mercredi. Thierry Henry est donc le nouvel entraîneur du club de la Principauté, actuellement 18e de la Ligue 1. Quand j'ai reçu l'offre de Monaco, c'était le choix du cœur, a précisé Thierry Henry. Monaco s'est présenté comme une évidence pour moi. Le nom de l'ex-joueur emblématique d'Arsenal avait déjà été cité les mois précédents du côté de Bordeaux ou encore d'Aston Villa. On rappelle que Thierry Henry, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts en 123 sélections. Formé à Monaco, l'ancien joueur de 41 ans va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club. Il avait été pendant 2 ans l'adjoint de Roberto Martinez à la tête de la sélection nationale de la Belgique.
Le Barça à la rubrique justice.
L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, va être jugé pour blanchiment d'argent lié en particulier à la vente des droits télévisés de matchs de l'équipe du Brésil. Hormis Rosell, à l'encontre duquel le parquet réclame une peine de 11 ans de prison, une amende de 59 millions d'euros, son épouse, son avocat et 3 autres personnes sont jugées dans cette affaire.
Et en NBA, championnat américain de basketball, les Milwaukee Bucks ont battu de justesse les Charlotte Hornets 113 à 112. Idem pour les Detroit Pistons qui ont eu raison des Brooklyn Nets 103 à 100. Pas serré du tout. En revanche, entre les Indiana Pacers et les Memphis Grizzlies, ces derniers ayant été massacrés 111 à 83. Parmi les autres résultats, Orlando Magic 104, Miami Heat 101, New York Knicks 126, Atlanta Hawks 107. Toronto Raptors 116, Cleveland Cavaliers 104, New Orleans Pelicans 131, Houston Rockets 112, San Antonio Spurs 112, Minnesota Timberwolves 108 et Utah Jazz 123, Sacramento Kings 117.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ambassadeur d'Angola à Kinshasa a été convoqué hier par le gouvernement congolais au sujet de violences présumées entourant l'expulsion de quelques 200 000 Congolais. Les autorités congolaises ont, par voie officielle d'une note verbale, transmis leur indignation et leur vive protestation à Luanda. Eddy Isango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Nous condamnons les expulsions sans information préalable du pays d'accueil que nous sommes, parce que nous avons un accord, une convention entre l'Angola et la RDC qui date d'il y a 20 ans, où il a été convenu que toute expulsion de migrants irréguliers d'un pays vers un autre doit faire l'objet d'une information préalable du gouvernement d'accueil des migrants expulsés. Et l'Angola n'a pas respecté cette condition-là. C'est pourquoi nous avons émis une condamnation que notre ministre des Affaires étrangères a dû aujourd'hui transmettre à l'ambassadeur d'Angola qui a été convoqué au ministère des Affaires étrangères après notre conseil des ministres d'hier.
L'Angola parle d'un retour volontaire.
Il y a à peu près 200 000 Congolais qui sont rentrés d'Angola. Parmi les 200 000, il a été confirmé que 160 000 sont revenus volontairement. Il s'agit ici d'un problème de 20 à 30 000 personnes qui ont été expulsées de manière irrégulière dont nous parlons. Donc les choses ne sont pas aussi carrées qu'on a lu dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont revenus d'eux-mêmes. Nous les accueillons, nous les orientons vers leur village parce que l'Angola ne souhaitait plus qu'ils soient là chez eux de manière irrégulière. Nous avons été prévenus. Mais il y a au moins entre 20 à 30 000 qui posent problème pour lesquels nous avons posé le problème et nous demandons des explications à notre voisin Angola parce qu'on a un accord.
Il y en a qui ont le statut de réfugiés, d'autres qui sont migrants avec statut
de réfugiés. Non. Nous n'avons pas vu de cas de gens qui ont le statut de réfugiés. Des gens qui n'ont pas le statut de réfugiés, un pays peut les expulser, c'est leur droit. Mais nous voulons qu'on respecte l'accord que lorsqu'on attrape un migrant en situation irrégulière, congolais, on prévient le gouvernement congolais pour qu'il puisse l'accueillir. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un meure parce qu'il a un statut de migrant irrégulier. Nous devons protéger nos concitoyens. Tout comme l'Angola a le droit de protéger ses concitoyens que nous pouvons expulser d'ici s'ils sont trouvés en situation irrégulière. C'est des choses qui peuvent se faire. Mais la procédure n'a pas respecté les accords qui existe entre nous. Donc nous ne parlons pas de personnes ayant le statut de réfugié, ça c'est autre chose.
Justement, on parle des morts.
Notre ministre de l'Intérieur a confirmé qu'il y a eu mort d'hommes, qu'il y a eu des violences tout à fait inacceptables pour lesquelles notre ministre des Affaires étrangères a demandé des explications à nos partenaires angolais aujourd'hui.
Par le passé, il y a eu des mesures de réciprocité, des Angolais qui ont été rapatriés aussi. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes?
Je ne pense pas qu'il faut parler de réciprocité. Tout État qui trouve sur son territoire des personnes en situation irrégulière à la loi sur le séjour a le droit de les mettre dehors. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on puisse, si ces gens-là sont de nationalité congolaise, qu'on prévienne la République démocratique du Congo pour que nous puissions assurer l'accueil de nos concitoyens. C'est tout. Il ne faut pas confondre les choses, cher ami.
C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, joint à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
RDC toujours, la riposte à l'épidémie d'Ebola continue. Déclarée depuis le 1er août dernier, Ebola a déjà fait au moins 139 décès sur les 217 cas signalés dans la région de Beni et en Ituri dans le nord-est du pays. Le défi majeur pour les équipes de riposte sur le terrain reste l'insécurité. Et les équipes médicales doivent être escortées par l'armée et les casques bleus pour aller sensibiliser ou vacciner la population dans certains endroits. Reportage de Charlie Kasereka, envoyé spécial de VOA Afrique à Beni.
Ici, par peur, certains villages ont été vidés par leurs occupants suite aux multiples attaques des ADF ou les Maï-Maï. Difficile donc aux équipes de médecins ou des sensibilisateurs de traverser ces zones pour aller soit vacciner ou récupérer les cas suspects d'Ebola. L'autre défi, c'est des tensions sociales qui bloquent souvent les travaux des experts sur terrain. Dr Njolo Kotambwe-Baté, directeur de la Riposte, explique sur VOA Afrique.
Chaque fois qu'il y a des affrontements dans la ville de Beni, le lendemain, les gens ne nous écoutent pas. Surtout s'il y a eu des morts, ils ne nous écoutent pas. Du tout. Il faut encore reprendre à zéro. Nous sommes toujours escortés. Cette semaine, au moins, ça a été la première semaine où on n'a pas eu de problème. Si nous arrivons à en avoir comme ça, 2, 3, 4, 5 autres semaines, les gens font le travail qui a donné des résultats partout. Pourquoi ça ne va pas donner ici?
Sur terrain, l'armée congolaise et les casques bleus de la mission onusienne en RDC sont sur tous les fronts avec des défis énormes aussi, mais restez pessimistes. Les porte-parole de l'armée à Beni, l'officier Makazukai.
Les FADC se battent contre l'ADEF, contre les Maï-Maï. Il y a Ebola qui nous guette, qui nous inquiète, nous tous. Nous sommes obligés de dégrainer quelques militaires pour les mettre à la disposition des équipes de riposte.
Un soutien régional est donc plus que jamais important, souligne les maires de la ville de Beni, qui expliquent que les phénomènes ADF perdurent à cause des reliefs montagneux et une forêt dense autour de la ville de Beni. Nyoni Bwanakawa, maire des villes.
Ces actes renseignent très bien que le mode opératoire de l'ennemi, c'est le terrorisme. Et puis, à partir du moment où l'on sait que les EIDF, c'est une mosaïque de nationalités qui se cache dans la forêt. Voilà là où nous avons toujours sollicité l'effort et l'intervention de la communauté internationale. Si aujourd'hui c'est Beniville qui paye les frais, demain ce sont tous les pays des Grands Lacs qui vont être embrasés par le phénomène EIDF.
Depuis 4 ans maintenant, l'armée fait face à ce qu'elle appelle une guerre asymétrique contre les ADF, créée à l'origine contre le président ougandais Yoweri Museveni. Depuis, les membres de ce mouvement ont érigé leurs bases arrière dans la région de Beni. La société civile locale et l'ONU les accusent d'avoir tué au moins 800 civils et kidnappé d'autres. Plus de 2 mois maintenant, cette région est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Dans son bulletin quotidien des informations liées à la riposte datée du 16 octobre, le ministère congolais de la Santé renseigne que 139 décès ont été enregistrés sur les 217 cas signalés avec plus de 17 000 personnes vaccinées en province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri. Voisine. Charlie Kasserek à VOA Afrique, Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Retrouvons maintenant notre envoyé spécial au Sénégal, John Linden, pour parler cette fois-ci des transports à Dakar et de leurs coûts pour ceux qui se rendent au nouvel aéroport à une cinquantaine de kilomètres de la capitale et aussi pour ceux qui se déplacent au centre-ville. Son reportage.
Avec l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne le 7 décembre 2017, le Sénégal s'est aussi doté d'une autoroute censée faciliter la circulation. Mais problème, les tarifs pratiqués par les taxis desservant cet aéroport sont très élevés. Babacar Mbaye, chauffeur de taxi.
Je viens de l'aéroport comme ça. Je passe souvent d'ici à l'aéroport de Dakar. Je passe souvent sur l'autoroute. Les gens plaignent. C'est vrai, l'autoroute est chère. On paye trop cher même. Trop cher même. Parce que d'ici à Dakar, si c'est un taxi, l'aéroport à Dakar, si c'est le taxi, tu prends un taxi, tu payes 20 000 francs.
20 000 francs, c'est pas une somme au-delà des bourses de la plupart des Sénégalais, surtout dans un contexte où dans plusieurs familles, accompagner un parent qui part en voyage est souvent un moment important. Babacar Mbaye.
Quand quelqu'un voyage, les gens vous accompagnent à l'aéroport. Pour l'accompagner, une personne à l'aéroport, tu payes 20 000 allées. De retour aussi, tu payes 20 000.
Il faut donc diminuer les prix, estiment certains, d'autant plus qu'il y a une autre préoccupation soulevée par les chauffeurs. La présence de 3 postes de péage sur un tronçon d'environ 50 km. Babacar Mbaye.
Et d'ici l'aéroport, tu payes 3 péages. 3 péages. Chaque péage, là, tu payes 1 000 francs. 3 500. Tu travailles à Mbour, par exemple. Tu travailles à Dakar ou vous habitez à Mbour. 50 km d'ici là-bas. Aller-retour. Tu payes 6 000 francs, c'est trop.
Heureusement, il existe plusieurs autres options pour les moins nantis. Ainsi, la compagnie publique Dakar Demdik, qui dessert aussi bien les zones interurbaines qu'urbaines, a des prix compétitifs. 600 francs en moyenne entre l'aéroport et le centre-ville de Dakar. À l'intérieur de la ville, vous pouvez bien sûr compter sur les taxis ordinaires mais surtout sur les célèbres cars rapides que vous pouvez emprunter avec 50, 100 ou 150 francs CFA. Et si vous êtes plutôt traditionnel, la calèche tirée par un cheval fera peut-être votre affaire. Mais quel que soit le moyen de transport que vous choisirez, la musique ne sera pas de trop. John Linden, Dakar, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Enfin, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, Médecins du Monde a publié son rapport sur l'accès aux droits et aux soins en France. Sur plus de 24 000 personnes accueillies en 2017 dans des centres de Médecins du Monde, la presque totalité, 97%, étaient des étrangers, dont 45% originaires d'Afrique subsaharienne. 14% des patients sont des mineurs. Claire Morin-Gibourg a joint le docteur Patrick Bouffard, médecin bénévole à Médecins du Monde.
Cet observatoire existe depuis plusieurs années et ce qui nous a le plus choqué, c'est bien sûr qu'il y a une pérennisation des situations d'exclusion et de vulnérabilité, mais surtout on a un très très fort sentiment d'aggravation de la situation. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a voulu faire de cet observatoire vraiment un objet politique, un objet d'interpellation politique, parce que les constats médicaux que nous faisons sont extrêmement inquiétants.
Dans ce rapport, on note aussi que 14% des patients sont des mineurs. Pourquoi ces patients viennent-ils vous voir ?
Souvent, ce sont des populations qui sont totalement marginalisées, qui n'ont pas pu avoir accès à l'ouverture à leurs droits de santé ou même l'accès aux structures de santé du droit commun.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que certains mineurs n'ont pas accès à la santé universelle en France ?
Alors c'est bien ça la problématique, c'est que souvent, ces jeunes mineurs qui arrivent en France et qui, même parfois on pourrait d'ailleurs étendre la problématique à de très jeunes adultes, hein, je veux dire, le problème est exactement le même. Malheureusement, les dispositifs du droit commun, ce qu'on appelle donc l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, est totalement débordé. Hein, déjà, c'était des services qui, même en dehors de la crise de l'accueil migratoire, étaient déjà en forte tension, sont complètement débordés. Et nous, ce qui nous interpelle vraiment de manière très importante, c'est quand ces jeunes personnes arrivent en France, eh bien, elles sont confinées à la rue. Hein, le temps de s'orienter vers des structures, etc. Malheureusement, le droit commun n'est pas organisé pour les accueillir de manière digne. On en est vraiment là, c'est un problème de dignité d'accueil, parce que les structures du droit commun sont totalement débordées et saturées. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que notre interpellation soit puissante par rapport à cet observatoire, parce que c'est vraiment une inquiétude politique générale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on décide de se mettre en ordre de bataille pour avoir un accueil digne des personnes. Je ne pense pas qu'on puisse parler de crise de la migration, mais je pense qu'en France actuellement, il faut parler de la crise de l'accueil des personnes. Et là, évidemment, le cas des mineurs isolés est totalement emblématique, parce qu'on se retrouve à, oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, à l'abandon d'enfants dans la rue. Je pense qu'il faut considérer qu'actuellement en France, il y a des enfants à la rue et que ça, c'est totalement inadmissible.
C'était le docteur Patrick Bouffard, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur les élections locales en Côte d'Ivoire. La coalition au pouvoir, le RHDP du président Alassane Ouattara, a remporté les locales et les municipales après sa rupture avec le PDCI de Conan de Bédier, désormais dans l'opposition. Les indépendants ont su tirer leur épingle du jeu en remportant plus de mairies que le PDCI. Que signifient ces résultats pour l'élection présidentielle de 2020 ? On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Patrick Dea. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.